Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Guillaume Sommerer.
La vie par le prisme des placements et les placements, vos investissements, by les meilleurs experts. Ils se succèdent jusqu'à 18h sur le plateau de BFM Business pour vous apporter des idées pour placer au mieux votre argent. Bienvenue à tous, on vous accompagne au rythme des marchés qui hésitent beaucoup. Le CAC 40 gagne quand même 0,1% aujourd'hui, malgré une inflation en zone euro qui envoie des signaux contradictoires. Dans un instant, Faiza Younzi nous livrera le détail de cette inflation, mais quand on retraite l'énergie et l'alimentation des chiffres, eh bien on voit que l'inflation sous-jacente réaccélère en zone euro. Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça pourrait impacter d'ailleurs la tonalité du discours demain de Christine Lagarde, qui pourrait peut-être vouloir encore durcir un peu le discours face à cette inflation sous-jacente qui s'enracine. On va en parler bien sûr avec nos experts tout au long de l'après-midi. Pendant ce temps, aux États-Unis, d'autres indicateurs, alors eux, pour le coup, peut-être un peu rassurants. Pour la Fed, en tout cas. La Fed qui, ce soir, annoncera elle aussi sa décision de politique monétaire. Eh bien, on voit un ralentissement, un refroidissement du marché de l'emploi sur le secteur privé aux États-Unis. Beaucoup moins de création de postes qu'attendue le mois dernier aux États-Unis dans le secteur privé. Alors c'est peut-être lié aussi aux conditions météo, donc il faut rester très prudent sur ce net ralentissement des créations de postes, mais on a peut-être là un premier signe d'un ralentissement de ce marché de l'emploi après lequel la réserve fédérale américaine est en train de courir. On va aussi en parler avec nos experts. John Plassard sera avec nous dans quelques minutes en direct. Wall Street qui hésite aujourd'hui. Le S&P 500 est en petite baisse, allez, moins 0,3%, avec des valeurs à surveiller, notamment Snap, la maison mère de Snapchat, ce titre Snap qui perd actuellement 14%, puisque Snapchat avait prévenu hier soir que son chiffre d'affaires du trimestre en cours allait diminuer en raison d'un environnement difficile, et donc ce titre Snap qui plonge littéralement. En revanche, dans les semi-conducteurs, plutôt des nouvelles, jugées plutôt favorables. Ce titre AMD à suivre aujourd'hui aux États-Unis après les résultats et le chiffre d'affaires supérieur aux attentes. Mais pour la suite, prudence. Le fabricant de semi-conducteurs anticipe quand même un recul de ses ventes au premier trimestre. On en parlera aussi avec John dans un instant. Les clés de l'immobilier, si vous voulez investir aussi au-delà de la bourse dans l'immobilier, on vous apporte des clés, notamment pour y investir à travers le crowdfunding. Aujourd'hui, des spécialistes d'Upstone nous accompagnent. Et puis tout à l'heure, on parlera crypto, notre club BFM Crypto à 16h35. Et on recevra le premier député au monde à percevoir son salaire en bitcoin. Bon, en fait, il le perçoit en euros, mais il convertit tout son salaire chaque mois systématiquement en bitcoin. Il nous expliquera pourquoi. C'est un député belge et il sera avec nous en direct à partir de 16h35 tout à l'heure. On est à vos côtés, on joue dans votre camp pendant encore 2 heures et tout de suite donc Faiza nous rejoint, Faiza Younzi, pour parcourir l'ensemble de l'actu économique du jour.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, cette inflation qui recule à 8,5% en janvier en zone euro pour le troisième mois consécutif, après avoir progressé de 9,2% en décembre. Alors c'est un recul plus prononcé que ce que prévoyaient les économistes. Cette tendance s'explique par l'accalmie des tarifs de l'énergie notamment. En tout cas, en France, l'électricité va coûter jusqu'à 15% plus cher à la suite du changement de règles du bouclier tarifaire à partir d'aujourd'hui. Il limitait la hausse des tarifs réglementés à 4%, et bien ce plafond passe à 15% désormais. Coup de frein sur les créations d'emplois privés en janvier aux États-Unis. L'économie américaine a créé 106 000 emplois, c'est nettement moins que ce qui était attendu. Le marché du travail était très affecté par les phénomènes météo et qui ont frappé plusieurs États le mois dernier. La RATP, l'intersyndicale, se joint à l'appel à la grève des 7 et 11 février prochains contre la réforme des retraites et appelle leurs agents à se mobiliser. Du côté de la SNCF, les syndicats doivent trancher dans l'après-midi. Et c'est une grève inédite outre-Manche. Des milliers d'enseignants ont manifesté à Londres aux côtés de cheminots et d'agents publics aujourd'hui. C'est la journée de grève la plus importante depuis plus de 10 ans au Royaume-Uni. La principale revendication porte sur les salaires alors que l'inflation s'est envolée dans le pays. Les voitures électriques gagnent encore du terrain en Europe. Leur part de marché a progressé en 2022 et dépasse désormais les 12%. Les ventes ont bondi de quasiment 30% sur un an avec plus de 1 million de véhicules vendus. Des ventes tirées par les marchés allemands, suédois et belges. On poursuit avec ce chiffre, 50 millions d'euros. C'est la levée de fonds que vient de réaliser Fairphone, un fabricant néerlandais de smartphones éco-responsables. C'est d'ailleurs le plus pionnier sur ce marché. C'est la plus grosse levée de fonds de cette entreprise qui a été créée il y a plus de 10 ans. Ce soir, on vous donne rendez-vous à 20h avec Stéphane Pedrazzi qui reviendra sur toutes les annonces de la Fed. Ne manquez pas, ce sera ce soir à 20h sur BFM Business.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Merci Faiza, et vous parliez du loup, Stéphane Pedrazzi. On va le rejoindre en direct, il est sur tous les fronts. Ce soir à 20h, cette émission spéciale, et depuis la Tour Euronext en direct, il est 16h07, il est avec nous, il apparaît dans le grand mur d'images de BFM Business. Rebonjour Stéphane, on voit aussi à vos côtés apparaître John Plassard. Bonjour John, on vous rejoindra également dans un instant pour évoquer la tendance aux États-Unis. D'abord en Europe, ici, on est légèrement dans le vert Stéphane, petite hausse aussi à la Bourse de Paris.
On vient de repasser dans le rouge à l'instant, Guillaume, moins 0,06% sur le CAC à la Bourse de Paris. Début de mois de février, donc très incertain. Il faut dire qu'on sort d'un mois record. On avait progressé de 9% au mois de janvier. Et puis surtout, on attend les banques centrales cette semaine, Réserve fédérale américaine ce soir, Banque centrale européenne demain. Pour la Fed, ce soir, la question n'est pas de savoir s'il y aura une hausse des taux. Elle est déjà largement anticipée par les investisseurs. 25 points de base, selon le consensus, mais surtout on attend des indications concernant la fin du cycle de hausse des taux. C'est un cycle impressionnant, il a débuté il y a un an, on était à 0,25% sur les taux aux États-Unis. On devrait être ce soir à 4,75%. Évidemment, c'est l'attente des marchés qui fait qu'on est un petit peu incertain sur le CAC maintenant.
Du côté des sociétés, celles qu'il ne faut pas rater aujourd'hui, évidemment cette baisse spectaculaire du titre Orpea.
Oui, le titre Orpea, je regarde le cours en direct, 23% de baisse, Guillaume, sur cette valeur. Après l'annonce d'un accord de principe pour la restructuration financière de l'entreprise, une partie de la dette va être transformée en capital. Ça va permettre d'effacer pratiquement 4 milliards d'euros de dette. C'est considérable sur un total de 9 milliards et demi. Mais pour les actionnaires, ça représente une dilution extrêmement importante. Ceux qui détenaient 1% du capital détiendront à l'issue de l'opération 0,004%. S'ils ne souscrivent pas évidemment à l'augmentation de capital. Et au final, c'est la Caisse des dépôts qui va injecter des fonds dans Orpea, qui va devenir le premier actionnaire de l'entreprise avec 50,2% du capital. Dans le même secteur également, le titre Korian est en légère baisse, mais rien à voir avec la dégringolade du titre Orpea. Rapidement, les autres secteurs, Eramet, le groupe minier qui profite d'un changement de recommandation. Odo BHF a relevé son opinion, a surperformé et surtout Odo a relevé de manière spectaculaire son objectif de cours sur la valeur. On passe de 86 à 141 euros. Le titre Eramet est en progression de 12,3%. Et puis un coup d'œil au secteur bancaire. C'est important puisque les très bons résultats se succèdent en Europe. On a eu UniCredit hier. BBVA l'espagnol confirme également cette tendance. BBVA a profité de la remontée des taux l'an dernier. Le groupe a publié des bénéfices records supérieurs aux attentes. Le titre en profite et gagne près de 5% en Espagne. Et surtout, Guillaume, c'est de très bon augure pour les banques françaises. Les résultats de BNP Paribas, ce sera le 7 février. Ceux de Société Générale, le lendemain, le 8 février. On attend la même chose, j'espère.
Effectivement, la semaine prochaine, nos banques françaises sortent du bois. Et demain, la BCE, bien sûr, qui sortira aussi du bois. Et cette émission spéciale dès 14h, ce sera la Chandeleur, Stéphane, la journée des crêpes et de cette édition spéciale que vous présenterez pour suivre, bien sûr, la décision de politique monétaire sans dessus-dessous. On verra, salé, sucré, on verra ce que nous réserve la réserve fédérale, la Fed, la BCE, on va y arriver, et donc cette conférence de presse aussi à suivre demain à partir de 14h45 sur notre antenne de Christine Lagarde. D'ici là, on vous retrouvera à 17h35 pour la clôture. À tout à l'heure, Stéphane, depuis la Tour Euronext. Et on verra aussi si ce soir, la décision de la Fed sera salée, sucrée, citronnée, crème de marron. On verra, la veille de cette Chandeleur, ce que nous réserve en effet la réserve fédérale américaine. Wall Street s'y prépare. Jour de Fed. Wall Street est en train d'hésiter un petit peu avant la décision ce soir 20h. Le S&P 500 recule de 0,28%. On va en parler tout de suite avec John Plassard.
BFM Business. BFM Bourse. USA Today.
Bonjour John Plassard en direct avec nous, spécialiste en investissement de Mirabeau. Avant de parler et d'évoquer la Fed, les résultats du jour peut-être, les annonces de sociétés, parce qu'il y en a à nouveau beaucoup, on suit particulièrement, je sais pas, il y a Peloton, il y a Snap aussi, il y en a beaucoup d'autres. Quelles sociétés regardez-vous particulièrement pour cette nouvelle séance américaine aujourd'hui, John ?
Guillaume, bonjour. Eh bien, évidemment, ce que je regarde, c'est Tesla. On en parle tous les jours. Eh bien, là, Tesla monte parce qu'elle a prévu d'augmenter la production hebdomadaire moyenne de ses véhicules à Shanghai. Pourquoi ? Parce que vous vous souvenez qu'elle avait baissé ses prix et la baisse de prix a fait que la demande était beaucoup plus importante. Donc c'est positif pour Tesla. Une autre société qui est positive, vous l'avez dit, c'est AMD. Dans les semi-conducteurs, les résultats trimestriels sont au-dessus des attentes, notamment grâce à une croissance de ses activités dans les centres de données. Mais comme vous l'avez dit, eh bien, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que l'action monte, mais les prévisions pour le premier trimestre ne sont pas aussi bonnes. Alors, de l'autre côté, dans les baisses, c'est évidemment Electronic Arts qui baisse très fortement à l'instant. Pourquoi ? Parce que, notamment, on a eu un report d'un des jeux qui sortait de la franchise de Star Wars, et une réduction des dépenses de consommation des consommateurs. Donc ça baisse. Snap, vous l'avez dit. Et Snap, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on a une annonce de perte nette au quatrième trimestre et des prévisions qui sont pessimistes. Mais surtout, le message sur le marché publicitaire. Et pourquoi je vous dis ça, Guillaume ? C'est parce qu'on a Meta, Facebook, qui va publier ce soir et qui dépend, bien évidemment, des recettes publicitaires. Et la dernière chose que j'ai notée, bien, Match Group, vous savez, le propriétaire de Tinder, eh bien, a fait état d'un chiffre d'affaires en dessous des attentes et ils vont licencier près de 8% de leurs employés. Donc, on voit qu'il y a une nouvelle société qui annonce des licenciements.
Effectivement, et même dans l'univers des rencontres. Bon, on va suivre tout cela également pour la suite de cette séance américaine. Et tout à l'heure, on anticipera la publication à venir de Meta, dont vous nous disiez qu'elle pourrait décevoir éventuellement quand on voit l'évolution du marché publicitaire pour Snap. C'est peut-être aussi de mauvaise augure pour la publication à venir ce soir après la clôture de Wall Street de Meta. À 20h, décision de la Réserve fédérale américaine ce soir. C'est jour de Fed. Le marché attend 25 pour la Fed. 25 points de base de hausse de taux. 50, c'est ici en Europe. Donc un ralentissement du rythme de hausse de taux. Est-ce que le marché va juste regarder ce chiffre ? Est-ce qu'il va essayer surtout d'écouter Jérôme Powell ? Il y aura cette conférence de presse à suivre aussi à partir de 20h30. Bref, quels seront les points à surveiller, à suivre particulièrement tout à l'heure, d'après vous ?
Ben, vous l'avez dit, 25 points de base, c'est totalement acté par le consensus. Donc, si ça devait être autre chose, ce serait un choc pour le marché. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher à savoir ? C'est évidemment ce qui va se passer après mars, parce que pour mars, le consensus est aussi à 100% sur une hausse de 25 points de base. Donc on devrait logiquement arriver à un taux de 5% aux États-Unis pour les Fed Funds en mars. Mais la question, c'est bien évidemment la suite. Est-ce qu'on rentre dans une pause ou est-ce que le message va être assez hawkish, faucon, et on va nous dire qu'effectivement, eh bien, l'inflation est toujours persistante, même si on a eu 6 mois de baisse sur le CPI aux États-Unis. Donc ça, c'est la première des choses qu'on va regarder. La deuxième des choses, ben, on va regarder l'état de l'économie américaine et le message qui va nous être donné, parce que vous savez qu'on a eu, il n'y a pas très longtemps, en début de semaine, les nouvelles prévisions du FMI qui étaient plus positives sur l'économie mondiale en pariant non pas sur une récession mais un espèce d'atterrissage en douceur aux États-Unis notamment qui ne devrait pas entrer en récession. Donc c'est très important de noter ça. Et puis évidemment, ici, on a aussi la question de la dette budgétaire et de ce fameux plafond de la dette dont on parle tellement souvent, Guillaume, ensemble. Eh bien, normalement, si il ne devait pas y avoir d'accord entre républicains et démocrates, eh bien, ça poserait problème aussi pour la Fed et notamment pour la réduction de son bilan. Donc, on va aussi avoir des commentaires qui nous seront donnés par Jérôme Powell là-dessus. Donc, très, très important de suivre les détails autour de cette hausse de 25 points de base ce soir.
Et le discours sur le marché de l'emploi, on a de nouveaux chiffres aujourd'hui dans le secteur privé, un net ralentissement, un plongeon surprise même du nombre de créations de postes dans le secteur privé. Est-ce que c'est le signe d'un début, peut-être enfin du point de vue de la Fed, d'un début de retournement du marché de l'emploi ?
Bah écoutez, malheureusement, enfin pour la Fed, évidemment, malheureusement non. Vous l'avez dit, création d'emplois, on en a eu 106 000 dans le fameux ADP de l'emploi privé, alors qu'on en avait 253 000 en décembre. Mais il faut faire très attention parce que ici, c'est exclusivement dû à un temps qui a été aux États-Unis extrêmement rigoureux. Donc qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, la Fed va lire ça en prenant compte de ce qui s'est passé au niveau météorologique. Et ce qui est très important, Guillaume, c'est que, évidemment, on aura les chiffres de l'emploi ce vendredi et ces chiffres de l'emploi pourraient être plus mauvais que prévu à cause de l'effet météo. Et donc, il faudra faire très attention à la réaction du marché ce vendredi qui pourrait s'enthousiasmer avant que le soufflet tombe juste après. Donc, faire très attention ici à la lecture de ce chiffre aujourd'hui.
Et puis cette étude que vous avez dénichée, John, et qu'on va peut-être détailler sur le prix des véhicules électriques aux États-Unis quand on souhaite recharger son véhicule. Il coûte actuellement plus cher de charger sa voiture sur une borne que d'aller faire le plein d'essence. Ça confirme que le véhicule électrique est inflationniste, en tout cas qu'il va sans doute s'adresser à des classes un peu plus aisées que le moteur thermique traditionnel. Comment est-ce que vous analysez cette étude ?
Bah, écoutez, c'est assez incroyable. C'est une étude qui est faite sur le quatrième trimestre de l'année passée par Anderson Economic Group qui dit effectivement que si vous rechargez chez vous votre voiture pour faire 100 miles, alors ça va vous coûter $11.60 pour votre véhicule électrique, alors que si vous allez chercher de l'essence avec la moyenne de tous les États-Unis, ça vous coûte $11.29, c'est-à-dire 31 cents de moins d'aller mettre de l'essence dans votre voiture. Donc évidemment, c'est un camouflet pour les véhicules électriques, mais qu'il faut faire très attention parce qu'évidemment, il faut regarder tous les détails. Si vous prenez des véhicules de ce qu'on appelle des véhicules de luxe, donc des plus gros véhicules, eh bien, de ce côté-là, on voit qu'il y a un différentiel assez important au niveau du prix payé lorsque vous chargez à votre borne chez vous, puisque c'est $4 de plus si vous allez prendre de l'essence à la pompe. Alors, juste une chose à noter, c'est que sur ce différentiel, sur la gamme normale, je dirais, de véhicules électriques, qui est plus cher lorsque vous le chargez à la maison, si vous le chargez, vous savez, il y a des bornes où on paye un tout petit peu lorsque vous sortez de chez vous, eh bien, ça coûte $3 de plus que l'essence. Donc, on est vraiment dans une situation où, effectivement, il y a des personnes face à un ralentissement économique qui vont peut-être réfléchir à deux fois avant d'acheter un véhicule électrique et ça pourrait avoir des conséquences assez importantes, en tout cas aux États-Unis, pour les futures ventes de voitures électriques.
John, merci beaucoup. John Plassard en direct avec nous, spécialiste en investissement de Mirabeau Wall Street qui recule très très légèrement. Donc, avant la Fed ce soir, le S&P 500 perd 0,2%. À Paris, on hésite autour de l'équilibre. On était en hausse aux alentours de 16h. On est maintenant en toute petite baisse symbolique, moins 0,1% pour notre CAC 40. L'Oréal, Lanterne Rouge, Renault, plus forte hausse.
BFM Business. BFM Bourse. Partageons nos valeurs.
Laura Fauveau nous rejoint, analyste pour Mirova. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Partageons nos valeurs chaque jour, le rendez-vous de l'investissement responsable, l'investissement socialement responsable, ISR, sur BFM Business. On va évoquer le secteur de la santé à travers l'innovation à impact. Vous nous direz dans un instant quelles sociétés sont les mieux positionnées en bourse. D'abord, la santé, c'est l'investissement responsable par définition, mais vous allez plus loin chez Mirova, vous visez les entreprises de santé qui proposent de l'innovation à impact. C'est quoi dans ce secteur de la santé, l'innovation à impact ?
Oui, effectivement, déjà, le secteur de la santé répond à des enjeux sociétaux majeurs. On le voit, le vieillissement de la population, le développement de maladies liées à nos modes de vie, typiquement l'obésité qui augmente dans de nos sociétés occidentales, des maladies respiratoires chroniques qui sont liées à la pollution, au tabagisme, etc. Et on l'a vu avec la crise du Covid très récemment, hein, c'est un exemple que tout le monde connaît. Elles ont été essentielles pour répondre à la crise et à la pandémie en innovant très rapidement pour développer des vaccins, mais pas seulement, aussi des tests de dépistage, des équipements médicaux pour les urgences et traiter les patients. Donc les sociétés innovantes dans la santé, c'est ce qu'on regarde chez Mirova, c'est un de nos axes d'investissement. C'est des sociétés qui vont avoir une contribution positive et favoriser une meilleure santé des patients et améliorer leur état dans tout leur parcours de santé. Donc, elle passe par plusieurs biais, cette innovation. Premièrement, bon, les traitements, les médicaments, c'est le béaba. Et il y a également des nouveaux modes d'administration et des nouvelles technologies médicales.
Nouvelles technologies médicales. Donc, on est à la fois dans la santé, secteur de fonds de portefeuille et défensif d'ailleurs aussi, et dans l'univers des valeurs de croissance, puisque vous allez chercher les sociétés innovantes. On est à cheval entre ces deux univers, défensif, croissance, on essaie d'en tirer le meilleur, c'est ça, de conjuguer le potentiel à la fois des valeurs de fonds de portefeuille et des valeurs de croissance à travers cette thématique dédiée.
Tout à fait, on peut tout à fait conjuguer ensemble valeurs de fonds de portefeuille et valeurs de croissance, puisqu'on va essayer de capturer justement la croissance bénéficiaire attendue dans les années à venir, pour en profiter sur du long terme et participer avec une société pharmaceutique ou de medtech ou de biotech à l'évolution du cours de bourse.
Et du coup, dans vos portefeuilles chez Mirova, donc vraiment pour adresser ce secteur de la santé par l'innovation, quelles sont les sociétés dont vous vous dites, celles-là, on doit les avoir en portefeuille parce que non seulement elles répondent à la thématique, je bafouille beaucoup aujourd'hui, elles répondent à la thématique et en plus elles présentent un beau potentiel pour la suite. Potentiel boursier.
Typiquement, on a AstraZeneca qui est une société de grande capitalisation britannique, qui est dirigée par contre par un directeur général qui est français, et il se trouve sur cette innovation dans les traitements, les médicaments. Ils ont dépensé, pour vous donner un ordre d'idée, 10 milliards de dollars en recherche et développement en 2022. C'est 22% du chiffre d'affaires. Donc c'est un gros budget de dépenses pour trouver des nouveaux produits. Ils vont se concentrer sur plusieurs domaines d'expertise différentes, mais dans un nombre limité. Typiquement, l'oncologie est un des exemples où ils ont lancé un certain nombre de produits ces dernières années en immunothérapie. Et ils continuent à innover pour toujours essayer d'aller plus loin et trouver des traitements toujours plus efficaces. En partenariat en ce moment avec une société japonaise qui s'appelle Daiichi Sankyo, qui étudie, pour simplifier, la chimiothérapie de demain, qui sera plus efficace et dont les effets néfastes seront moins importants pour la cancérologie et certains types de cancers notamment. Et en parallèle, ils étudient aussi des traitements dans les maladies rares. Mmh. Et évidemment, c'est des maladies dans lesquelles il y a peu ou pas du tout de traitements disponibles aujourd'hui sur le marché où rien n'est commercialisé. Donc, c'est important de continuer à innover sur ce genre de maladies.
AstraZeneca, et en termes de valorisation, on est bien ?
Aujourd'hui, on est sur une valorisation de 14 fois le PER 2024 pour une croissance des bénéfices de plus de 15% attendue ces 4 prochaines années.
Alors, vous le disiez, vous choisissez des entreprises qui innovent par la découverte et le développement de nouveaux traitements. Mais vous choisissez aussi des entreprises du secteur de la santé qui proposent de nouveaux modes d'administration des traitements déjà existants. Est-ce qu'on peut ça aussi l'illustrer ?
Tout à fait. C'est une petite biotech française, parce que c'est important de promouvoir aussi des petites sociétés, notamment françaises, qui développent une technologie qu'on appelle BIPO, qui est brevetée, et qui consiste à administrer des traitements déjà existants, sous différentes formes, en des traitements injectables à longue action, dans une action prolongée. Donc typiquement, on va remplacer une pilule, un comprimant à prendre tous les jours par ce traitement injectable à action prolongée pour en améliorer l'efficacité. Un exemple concret, actuellement ils sont en partenariat avec Teva pour développer une molécule qui est déjà existante pour des patients schizophrènes. Donc pour les patients, ça va permettre d'éviter l'oubli de traitement.
Ah oui.
Qui pourrait avoir des conséquences assez néfastes pour ces patients et d'avoir une meilleure efficacité et une meilleure adhérence au traitement.
Médincelle, bon, biotech, alors là c'est vraiment, c'est une biotech, donc c'est forcément plus spéculatif effectivement, Médincelle, M-E-D-I-N-C-E-2-L. Et puis une troisième société que vous vouliez nous présenter aujourd'hui, là on est dans des techniques nouvelles, des techniques innovantes pour la chirurgie.
Intuitive Surgical, ouais. Donc c'est une société américaine cette fois-ci qui développe des robots. C'est le système Da Vinci qu'ils ont mis en place pour favoriser la chirurgie mini-invasive. Et évidemment, l'impact est positif pour les patients par rapport à une chirurgie ouverte traditionnelle, aussi bien pendant l'opération et pour la réussite opératoire, mais également après l'opération pour favoriser une meilleure amélioration de l'état après l'opération en post-opératoire.
Donc des opérations à la fois moins complexes pour les chirurgiens, donc moins de risques de mauvaises surprises, et moins de risques ensuite après l'opération pour le patient, moins de risques de complications, c'est l'idée.
Tout à fait. Et on limite les cicatrices aussi, notamment. On limite les risques néfastes liés à certains types de chirurgie.
Intuitive Surgical. Là, c'est américain ?
C'est américain.
Ah voilà, fallait quand même. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui.
Merci à vous.
Sur le plateau de BFM Business, c'est trois idées donc pour investir dans la santé innovante. L'innovation à impact, c'est ainsi que vous la qualifiez chez Mirova. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de BFM Business aujourd'hui en direct. Laura Fauveau. Bon retour, Laura Fauveau. Dans un instant, Romain Dobry sera avec nous pour mesurer le potentiel des marchés en ce mois de février qui débute à peine. Première séance de février, on l'entame ce mois de février dans l'hésitation. Le CAC 40 évolue autour de l'équilibre à 7074 points. Alors il y a des titres qui bougent fortement quand même. C'est le cas d'Orpea aujourd'hui. Une séance très très compliquée pour ce titre Orpea qui perd quasiment un quart de sa valeur en ce moment, moins 23% Orpea. Pourquoi cette sanction impressionnante? Parce que l'accord avec le groupe d'investisseurs mené par la Caisse des dépôts et consignations, cet accord sera très dilutif dans certaines conditions pour les actionnaires et donc Orpea qui recule de 24%. Dans son sillage, une baisse bien moindre, mais une baisse quand même pour Korian qui recule de 2%. Les autres valeurs à surveiller aujourd'hui, à l'inverse, de l'autre côté, du côté des hausses, Eramet gagne 13%. Odo relève sa recommandation sur Eramet à surperformance et surtout, Odo estime qu'Eramet a tout d'une grande. C'est ainsi qu'Odo intitule son étude sur Eramet. Odo qui relève fortement son objectif de cours sur la valeur de 86 à 141 euros et Eramet donc qui en profite, cette hausse spectaculaire. On voit pas tous les jours des hausses de 13% dans le secteur minier. Aujourd'hui Eramet donc en progression de 13% à l'instant même d'après Odo. Eramet dispose de projets attractifs dans les métaux de transition énergétique qui devraient soutenir la progression des résultats et améliorer fortement le mix produit du groupe. Voilà ce que nous dit Odo. La structure financière aussi, juge Odo, est très saine. La visibilité sur les résultats futurs satisfaisante avec la cession de la plupart des activités sous-performantes. C'est la plus forte hausse du jour sur le marché parisien. On va y revenir dans un instant. On va aussi parler des cryptos. Notre club BFM Crypto, ce sera juste après la pause. On se retrouve dans à peine deux petites minutes. À tout de suite.
BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Guillaume Sommerer.
Un peu plus de 16h30, on est à vos côtés pour encore une heure et demie en direct sur BFM Business. On entame ce mois de février, coup-ci, coup-ça, sur le CAC 40 qui hésite beaucoup. On va rejoindre Romain Dobry. Bonjour Romain, depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Romain, on est ravis de vous retrouver. Bonjour. Donc avant ce soir, la publication de Meta après la clôture de Wall Street. On est un peu pessimiste d'ailleurs pour Meta après la publication de Snap. On voit que ce marché publicitaire s'est dégradé pour Snap. Snap qui à Wall Street recule de 11%. C'est peut-être pas bon signe non plus pour Meta. Bref, on suivra cela. En attendant la Fed, aussi attendue à 20h, c'est l'attentisme, c'est la prudence qui l'emporte et qui domine. D'un point de vue technique, quel potentiel trouvez-vous au CAC 40 pour la suite, Romain?
Bien, toujours dans une zone de consolidation depuis mi-janvier sur l'indice CAC 40 et sur les grands indices européens. Les indices américains ont permis de tenir en partie haute la semaine dernière et ont bien rattrapé leur retard. Et on marque bien le meilleur mois de janvier de l'histoire de la création de l'indice CAC 40 depuis 1987, donc avec 9,40% de progression sur le mois. Donc des indices qui sont forts, de l'intérêt sur ces marchés. On voit que les moindres signaux de faiblesse sont contrés. Le moindre signal de retracement la semaine dernière a été rapidement contré. Et c'est la même chose sur les indices américains qui donnent aussi des structures et des validations de retournement haussières. Le S&P, le Nasdaq ont débordé les obliques baissières sous lesquelles ils évoluaient depuis plus d'un an. C'est donc un signal fort et tout ça avec du volume et des sorties fortes en termes de pourcentage. On a toujours des volontés d'achat sur repli pour la plupart des opérateurs. Les autres sont prudents, ils sont vigilants. En témoigne la volatilité à 16,5 sur le CAC 40 à peu près et 19 autour sur le VIX, sur le S&P. Donc on est toujours en zone de vigilance, des opérateurs qui sont loin d'être complaisants. Et des portefeuilles qui sont couverts en amont de ces rendez-vous-là, notamment sur les actions américaines. Donc on entame effectivement quelques heures cruciales, et puis en plus des rendez-vous que vous donniez, il y aura demain la Banque Centrale Européenne, et puis demain soir, les 3A, Apple, Amazon et Alphabet qui publieront. Ça va animer évidemment les marchés. Donc volatilité à prévoir, Techniquement, on évolue à Paris dans un grand trading range 6997-7126. La médiane, on l'a ajustée à 7063 points. Tant qu'on est au-dessus, c'est plutôt accumulation en partie haute. La rupture de 7033 marquerait un petit warning en intraday, mais c'est la rupture de 6997 qui déclencherait l'alerte. Et l'alerte, elle serait juste l'alerte d'une consolidation à notre sens pour aller chercher un niveau autour de 6865 points. Si en revanche on arrive à déborder 7126, cette fois-ci, on pourrait aller chercher des cibles haussières situées au-delà de 7255 points. Donc plutôt de l'intérêt, des marchés forts et probablement des choses à faire à l'achat ou sinon au débordement, en tout cas sur repli.
Du côté des sociétés, justement, des valeurs cotées, des actifs au sens large, où se situent les potentiels les plus intéressants pour la suite ?
Alors les secteurs forts pour l'instant, c'est la banque. Difficile de rentrer sur le secteur bancaire sur les niveaux actuels. Il faudrait des petits replis parce que le débordement de niveau majeur est un petit peu loin maintenant. Il y a le secteur automobile qui déclenche à nouveau des signaux intéressants. Et puis il y a pas mal de valeurs individuellement qui ont déjà soit de beaux parcours, soit qui sont en passe de les déclencher. On voit des valeurs comme Vicat ou ALD pour des plus petits titres, ou Alten encore. Il y a Atos qui a déjà eu un beau parcours mais qui est sous des niveaux de résistance importants qui pourraient déclencher des mouvements complémentaires. Et puis il y a Capgemini qui est pas loin non plus d'une oblique baissière de long terme qui pourrait déclencher quelque chose. Et Danone qui frémit à la sortie d'un petit triangle symétrique qui pourrait donner un petit potentiel haussier aussi. Donc pas mal d'éléments sur beaucoup de titres et dans des secteurs assez différents. On remarque qu'il y a pas mal de value à surveiller.
Effectivement, et dans cet univers des valeurs des cotées, Renault, vous disiez, il y a des signaux à nouveau là sur l'automobile à la hausse. Renault est en tête du CAC aujourd'hui, plus 3,1% par exemple. Et puis dans le secteur minier, Odo BHF relève son opinion, surtout son objectif de cours sur Eramet. Alors ça profite à Eramet, hein, quelle hausse, plus 11%, mais dans son sillage, Imerys aussi progresse. Un peu plus de 3% en ce moment de hausse pour Imerys. Merci Romain, merci beaucoup de nous avoir accompagnés depuis Bourse Direct. Et si vous avez des questions sur vos portefeuilles boursiers, n'hésitez pas à nous les envoyer. Amaury de Tonquédec vous accompagne chaque soir après 18h sur nos réseaux sociaux. Bonjour Amaury.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Rendez-vous tout à l'heure en direct pour le grand débrief.
Oui, à 18h, on va se concentrer sur deux sociétés, Imerys et Vivendi. Deux valeurs qui peuvent être attractives boursièrement parlant, selon Frédéric Plisson, en tout cas, gérant sous mandat chez Kipling Finance, qui nous accompagnera tout à l'heure. Société intéressante, car d'autant plus, il n'est pas impossible que ces sociétés sortent prochainement de la cote. Et bien sûr, on répond à vos questions. Pour nous les envoyer, vous scannez ce QR code ou alors vous nous écrivez à bfmbourse@bfmbusiness.fr.
À tout à l'heure, Amaury, en effet, pour les réponses aux questions que nos auditeurs et téléspectateurs vont d'ici là vous envoyer. À tout à l'heure. Tout de suite, c'est l'heure des cryptos, notre club BFM Crypto.
BFM Business, BFM Crypto, le club.
Ils sont là, au front, sur le pont, comme chaque après-midi, nos experts du club BFM Crypto. Valentin Demey, journaliste pour Cryptos. Bonjour Valentin.
Bonjour Guillaume.
Vous allez bien ?
Ça va très bien, et vous ?
Ça va. Christophe Debeukeleire nous rejoint également. Bonjour.
Bonjour Guillaume.
Ah, vous êtes scié, je l'ai bien prononcé.
Oui, vous m'impressionnez.
Le premier député au monde, il est belge, Christophe Debeukeleire, le premier député au monde à choisir l'an dernier, en 2022, de transformer tout son salaire en bitcoin. Vous nous expliquerez pourquoi donc ? Ce sera dans un instant. Juste après aussi avoir justement regardé ce que le Bitcoin a dans le ventre, quel potentiel pour la suite après ce super début d'année. Laurent Pignot avec nous. Bonjour Laurent. Depuis Zone Bourse, en janvier, le Bitcoin a donc gagné 40%. Là, on entame ce mois de février peut-être un peu plus essoufflé. Est-ce que vous estimez que le meilleur est désormais passé pour les cours du Bitcoin, Laurent ?
Oui, effectivement. Hein, le Bitcoin est monté en ligne droite en janvier en inscrivant quasiment 40%, comme vous le disiez, et signe au passage son meilleur début d'année depuis 10 ans, en revenant donc sur les 23 000 dollars actuellement. Alors on peut le dire, ça fait du bien aux crypto-investisseurs, mais n'allons pas trop vite en besogne tout de même, car l'engagement reste mitigé sur le réseau. Alors déjà, d'un point de vue des investisseurs particuliers, l'engagement donc sur le réseau Bitcoin est toujours limité. Si on s'intéresse au nombre d'adresses actives et au volume en dollars transférés sur le réseau, nous restons sur des niveaux relativement faibles. Du moins, on ne peut pas voir un élan d'enthousiasme et de dynamisme proportionnel à l'envolée du Bitcoin sur le mois de janvier. Donc, idéalement, pour soutenir durablement le cours du Bitcoin, il faudrait qu'on observe justement une augmentation de l'activité sur le réseau, mais qui n'est pas pour l'instant franchement visible. En revanche, on peut voir que l'engagement des institutionnels a été plus important, notamment la semaine dernière, avec une augmentation de 43% du nombre total de crypto-actifs sous gestion dans les produits d'investissement par rapport au creux de novembre 2022. Donc finalement, on a un contraste entre l'engagement faible des investisseurs particuliers d'un côté et un engagement en progression sur du côté des institutionnels. Donc voilà, pour l'instant, les niveaux techniques à surveiller sur le Bitcoin, c'est la grosse zone des 24 500, 25 000 dollars qu'il faudra casser par la, à la hausse pour continuer la progression du cours du Bitcoin. Par contre, dans l'autre sens, c'est réellement le niveau des 21 000 dollars qu'il faudra conserver en cas de retracement, car si nous passons en dessous, bah cela, on verrait un signal de retournement baissier. Donc c'est vraiment ce niveau qu'il faut surveiller. Mais attention, à court terme, on a ce soir la décision de la politique monétaire américaine, suivie de la conférence du président de la Banque centrale, Jerome Powell, qui amènera probablement son lot de volatilité sur les marchés en fonction de son discours, qui sera scruté, hein, bien évidemment, par les acteurs du marché. Et les crypto-monnaies ne seront pas épargnées par cette volatilité si elle a lieu. Donc, vigilance à court terme.
À 20h, émission spéciale d'ailleurs sur BFM Business pour analyser les premières décisions de la Réserve fédérale américaine. Et puis demain aussi pour la BCE qui va aussi annoncer ses choix monétaires. Émission spéciale dès 14h, animée, ces deux éditions spéciales par Stéphane Pedrazzi. On parlait là du Bitcoin. Quel potentiel pour la seconde des cryptos, l'Ether?
Alors, l'Ether se stabilise depuis 3 semaines, entre 1550 et 1650 dollars. Repasser durablement sous les 1500 dollars enverrait un signal baissier à court terme, et au-dessus de la tête de l'Ether, c'est vraiment la zone dure des 1750-1850 dollars qu'il faudra retraverser pour continuer là la progression sur l'Ether. Mais pour l'instant, comme je le disais, sur l'Ether et sur le Bitcoin, j'opterai pour la patience en attendant justement la réaction des marchés ce soir après l'allocution de Jerome Powell à 20h30.
Merci beaucoup Laurent Pignot, en direct avec nous depuis Zone Bourse sur le potentiel des cryptos. On rappelle de n'y investir que l'argent dont on n'a pas besoin, ça reste un marché spéculatif. Ça n'a pas empêché notre député belge qui vient de nous rejoindre, Christophe de Beuclair, donc de choisir de convertir tout son salaire en Bitcoin. On va en parler dans un instant. Vous êtes le seul député au monde pour l'instant à choisir de vous faire rémunérer en Bitcoin.
Oui, alors il y a eu le maire de Miami et le maire de New York qui ont déjà fait ça il y a un petit temps. Et donc par contre, je suis le seul député, et en tout cas au niveau européen, oui.
Bon, vous écoutiez donc Laurent Pignot avec intérêt sur le potentiel du Bitcoin, parce qu'il parlait de votre salaire, là. Il parlait de votre rémunération avec le potentiel du Bitcoin.
Non, écoutez, moi, les cours et la spéculation et le cours du Bitcoin, quand il monte et qu'il descend, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les idées politiques et le salaire en Bitcoin que j'ai pris pendant un an, c'était un acte politique et pas un acte financier. Et donc, c'est radicalement différent.
Vous nous l'expliquerez dans un instant. Valentin, pendant ce temps, la Banque Centrale Européenne aussi, les Européens se bougent pour faire monter en puissance leur devise numérique, l'euro numérique. La Banque Centrale Européenne envisage la création d'une application de paiement en euro numérique.
C'est ce qu'on a appris effectivement il y a quelques jours. Cet euro numérique, on en entend parler beaucoup, on en traite beaucoup de sujets sur ce plateau, et il fait peur aux Européens qui pourraient imaginer être davantage épiés, mais il faisait peur aussi aux banques qui pouvaient se voir retirer une partie de leurs prérogatives, ou en tout cas des sujets qu'ils pouvaient traiter. Ça avait été un petit peu écarté il y a quelques temps, parce qu'on avait compris qu'il allait avoir un euro numérique de gros et un potentiellement de détail plus tard, mais en tout cas que les banques auront toujours un rôle à jouer dans l'intermédiaire de confiance entre le public et la création de la monnaie. Et puis en fait là, nouveau signal un peu dans l'autre sens qu'on a appris d'un membre du directoire de la BCE chargé du développement de l'euro numérique à la Commission des affaires économiques et monétaire du Parlement européen, qui veut créer, ou en tout cas qui envisage de créer, une application totalement indépendante et qui se séparerait de ses banques. Il dit que l'eurosystème pourrait créer une nouvelle application propre à l'euro numérique qui comprendrait uniquement des fonctionnalités de paiement de base opérées par les intermédiaires. Du coup, l'euro numérique serait ainsi reconnu et mis à disposition quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en Europe. Et donc, ça met de côté les banques. Les banques qui, d'autant plus, rappelez-vous Guillaume, on en avait parlé il y a quelques temps, était en train de plancher depuis quelques temps sur ce projet de pan-européen de paiement pour essayer de concurrencer avec 13 banques commerciales Visa et Mastercard, qui avaient du mal à décoller. Et en plein dans ce sujet-là, il y a ce projet d'application qui donc les mettrait totalement de côté dans le cadre d'un euro numérique de détail qui s'adresse donc directement à la population et qui pourrait être accessible partout sans l'intermédiaire que sont les banques commerciales aujourd'hui. Donc voilà, ça remet un peu de point d'interrogation dans ce projet qui est encore beaucoup flou, mais qui là en tout cas s'annonce être sans les banques.
À quoi joue la BCE qui dit ne pas vouloir exclure les banques, mais qui envisage la création d'une application de paiement en euros numériques. On va suivre tout ça de très très près. Mort-vivant ou ressuscité, Terra qui a chuté, qui s'est effondré l'an dernier. On l'a vécu ici sur ce rendez-vous BFM Crypto chaque jour. Terra, tel un phénix, est en train peut-être de renaître. En tout cas, Do Kwon, le créateur de Terra, prépare son retour et même embauche.
Ouais, je sais pas si c'est un phénix.
Un peu abîmé.
C'est un peu abîmé, c'est particulier quand même. Cette blockchain qui avait fait perdre avec son stablecoin algorithmique, l'UST, qui était censé suivre le cours du dollar, qui ne l'a pas suivi puisqu'il s'est effondré avec 30 à 40 milliards de dollars sur son réseau. Et quelques jours après cet effondrement, c'était au printemps dernier, si je dis pas de bêtises, qu'on avait traité sur ce plateau. Terraform Labs, qui justement gère ces blockchains, cette blockchain-là, Terra, en avait créé une autre, avec un autre token pour essayer de la relancer et essayer de retrouver un peu d'argent pour essayer aussi de sauver les personnes qui avaient perdu de l'argent dans la première blockchain Terra. Bon, ça n'a pas marché énormément, on n'a pas retrouvé les 40 milliards perdus, mais pour le coup...
Ça bouge encore.
Ça bouge encore, effectivement. Et il y a des gens qui s'y intéressent pour le coup. Et donc, notamment, 12 personnes que tentent de recruter Terraform Labs. Terraform Labs, qui est toujours présidé par Do Kwon, qui est toujours recherché par Interpol, ça fait quand même beaucoup de choses.
Mais il embauche.
Et il continue d'embaucher et de faire quelques conférences sur les réseaux. Donc, c'est une affaire très particulière. C'est l'un des échecs et peut-être même des escroqueries les plus incomplètes de l'année dépassée, mis à part FTX. Voilà, effectivement, c'était l'échec d'un stablecoin algorithmique. On le rappelle, tous les stablecoins ne sont pas à mettre à la poubelle. Il y en a qui sont décentralisés, qui fonctionnent très bien. Il y en a qui sont centralisés, qui sont audités et qui ont des autorisations. Là, c'était vraiment une création d'un homme, Do Kwon, et de son équipe Terraform Labs, qui a échoué. Mais voilà, il tente toujours de relancer la machine, à voir s'il arrivera à recruter ces 12 personnes, malgré la réputation mauvaise qu'a Terraform Labs avec cet échec et le fait que les autorités sont un petit peu sur le dos de certains de ces dirigeants, dont Do Kwon.
Ah oui, l'animal bouge encore, il est recherché et il embauche.
À suivre.
C'est une vraie jungle, cet écosystème. Welcome to the jungle. Certains qu'on pensait fini tentent de renaître et d'autres qu'on pensait fini s'entre-dévore. Les acteurs faillis après la chute de FTX s'entre-dévore. On pense en tout cas à Alameda Research qui intente un procès à Voyager Digital, pas un petit procès, un procès à 446 millions de dollars quand même.
Ouais, c'est sympa, effectivement. On est dans le cadre de cette procédure de la part des avocats d'Alameda Research. Donc on rappelle, FTX, Alameda Research, c'était les deux entreprises détenues par Sam Bankman-Fried, SBF. Là, pour le coup, le procès aura lieu début octobre de cette année, le 2 octobre, aux États-Unis. On va clairement vers une escroquerie, c'est ce dont tout a l'air de montrer. Mais en tout cas, Alameda Research, qui était du coup une des deux entreprises détenues en partie par SBF, qui était la structure d'investissement de SBF, intente un procès contre Voyager Digital de 446 millions de dollars. Il leur reproche un paquet de choses et de points dont se défend Voyager Digital, qui est en faillite depuis l'été dernier, donc avant que FTX ne tombe, mais on est clairement dans cette recherche des moindres euros avant le procès qui s'ouvrira de SBF en octobre prochain. Donc on va voir. Pour l'instant, les avocats de Voyager Digital se défendent totalement de cette attaque et demandent à ce que FTX et Alameda Research soient placés au second plan des créanciers pour d'abord rembourser les autres acteurs de cette faillite. À voir. Effectivement, les deux s'attaquent, c'est tombé il y a quelques jours, mais voilà, John Ray III et les différents avocats et les différentes personnes qui gèrent ces dossiers tentent de retrouver, que ce soit sur Alameda ou sur FTX, le plus de fonds avant l'ouverture du procès.
Voilà l'actu qui agite en ce moment l'écosystème crypto, au-delà du rebond spectaculaire depuis le début de l'année, du cours du Bitcoin, de l'Ether. Vous feriez payer à 100% en Bitcoin? Vous préféreriez que votre salaire soit versé en Bitcoin qu'en euros, vous, Valentin?
Moi, j'admire ce qu'a fait Christophe. Effectivement, ça fait un paquet de mois que j'observe sa position. Oui, peut-être. Peut-être que je prendrai ce pari un jour. On le fera ensemble, Guillaume.
Oui, peut-être. Non, mais c'est pas une réponse, ça. Bon, il se mouille pas. Il veut pas vexer l'écosystème. En fait, vous n'êtes pas prêt à vous faire verser votre salaire en Bitcoin. Mais comme il faut pas se fâcher avec l'écosystème, vous dites oui, pourquoi pas. Tiens, peut-être, c'est une bonne idée.
Vous êtes de plus en plus taquin, Guillaume. Je me ferai payer en Bitcoin. Voilà. Je prendrai mon salaire en Bitcoin. Voilà. Pari est pris, Guillaume.
Exactement.
Je m'adresse à la caméra. Ouais. Et j'annonce, effectivement, que dans quelques années, je prendrai mon salaire tout un an en Bitcoin comme Christophe. Et j'espère que vous me suivrez, Guillaume.
Christophe de Boeckeler, on prononce son nom comme il faut, belge, ouais. Que vous êtes le premier député au monde, on le disait, à avoir choisi de se rémunérer en Bitcoin, de percevoir en Bitcoin sa rémunération. Bon, en réalité, vous perceviez en euros, mais vous avez systématiquement converti en Bitcoin tout au long de l'année 2022, mois après mois, à chaque fois, vous convertissiez en Bitcoin.
Voilà, exactement. Mois après mois, j'ai converti en Bitcoin et mis ça sur un wallet, quoi, voilà, bien protégé.
Pourquoi? Pourquoi faire? En plus, le cours du Bitcoin s'est cassé la figure au cours de l'année, donc pourquoi faire?
Alors, c'était pour défendre des idées politiques, figurez-vous. C'était un acte politique. Je pense qu'on est dans un monde financier qui est malade. Et c'est grave parce que la finance est le sang de notre économie. Et donc, il faut absolument que les hommes et les femmes politiques commencent à s'y intéresser et se posent la question. Moi, j'ai essayé de réveiller le monde politique belge sur ces questions pendant tout un moment, en organisant des conférences, en essayant de sensibiliser. Je voyais que ça n'avançait pas comme il fallait. Et donc, j'ai décidé de frapper fort en prenant ce salaire en bitcoin et pour secouer un peu la Belgique et ça a fait des vagues un peu en Europe.
C'est vous-même que vous avez frappé, vous avez perdu de l'argent du coup, le bitcoin s'est cassé la figure, vous êtes fait mal tout seul.
J'ai toujours autant de bitcoin que quand j'en ai acheté.
Oui, mais leur valeur, la valeur des bitcoins en euros.
Mais c'est parce que vous calculez en euros. C'est ça la différence. Et j'ai envie de faire passer les messages. Mais vous avez raison que c'était évidemment risqué. Mais je pense que quand on fait la politique, c'est pour défendre des idées politiques. Et si on n'a pas le courage de ses convictions, il vaut mieux pas en être.
Ah oui. Donc c'était l'idée de remettre la politique au milieu du village, en quelque sorte, la politique au sens noble. Faire passer après soi son intérêt personnel et mettre en avant des idées. Tenter de mettre en pratique les idées que l'on porte.
Je pense que avec Bitcoin, on parle beaucoup en effet dans les médias du cours du Bitcoin et des cryptos en général. Or, je pense qu'il y a un vrai projet politique derrière dont on ne parle pas assez. Et moi, j'ai envie que la Belgique, l'Europe prennent ce train de la crypto. J'ai envie qu'on vote des lois qui encadrent, qui encouragent l'apparition de ce contre-pouvoir financier. Et c'est pour ça que je vais me battre.
Alors, il faut nous expliquer sur le fond justement pourquoi vous estimez que Bitcoin doit être davantage mis en avant. Vous disiez notre système financier ne marche pas bien, le Bitcoin apporte des réponses, un contre-pouvoir financier, disiez-vous à l'instant. En quoi ?
Bien, je pense que la première grande idée, c'est la liberté financière. Si on regarde un peu ce qui est en train d'arriver avec notre système financier, on a de moins en moins accès au cash, hein, on restreint de plus en plus l'accès au cash. On voit que la Banque Centrale Européenne est en train de travailler sur ce fameux euro numérique, qui est en fait un euro pour lequel elle va avoir toutes les données, accès direct à toutes les données. Et donc, je pense que si vous mettez ces instruments-là dans les mains de pouvoirs plus autoritaires, moins démocratiques, on est face à un grand danger. Et je pense que continuer à avoir accès en propre à son argent, ce que permet justement Bitcoin et la crypto, eh bien, c'est un enjeu démocratique majeur des prochaines années.
C'est-à-dire que ce que vous nous dites, c'est que le Bitcoin est l'avenir du cash, en quelque sorte ?
Alors, je pense que dans un monde de plus en plus digital, le monopole de la monnaie, le monopole étatique sur la monnaie est quelque chose qui commence de plus en plus à poser question. Et on peut se demander légitimement si c'est encore en accord avec nos standards démocratiques et de liberté. Et je pense que si on peut pas à la fois restreindre le cash et ne pas nous laisser un accès à de l'argent en propre. Et donc je pense que c'est ça ce qu'on doit défendre ici dans le cadre de Bitcoin.
Bon, j'ai lu certaines de vos interviews. Vous expliquez aussi que vous privilégiez le Bitcoin parce que l'euro et le dollar sont, dites-vous, moins stables qu'on ne le croit. Plus stables que le Bitcoin quand même, enfin.
Mais tout dépend ce que vous prenez comme référence en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que dans nos pays, on a pris la référence de l'euro et du dollar, mais en vérité, si vous prenez par exemple ceux qui veulent prendre la référence ceux pour qui la référence est l'or par exemple, eh bien on voit que le cours de l'or en euros a perdu 85% de sa valeur en 20 ans. Et donc tout dépend de son point de départ. Mais je pense que c'est pas l'élément essentiel. Je pense que le Bitcoin a fur à mesure de son adoption et des capitaux qui vont des utilisateurs qui vont utiliser le Bitcoin et les cryptos en général, eh bien ça va petit à petit stabiliser son cours. Aujourd'hui, c'est sûr que avoir Elon Musk qui tousse et ça a un effet sur le cours, ça fait que c'est pas encore utilisable à grande échelle, mais on y va petit à petit. D'ailleurs, si vous voyez la volatilité, elle en vérité, elle diminue avec les années. Si vous allez voir la volatilité il y a 10 ans de Bitcoin, c'était encore tout à fait autre chose qu'aujourd'hui. Et donc, petit à petit, ça diminue.
Alors, c'est vrai qu'on a la mémoire courte quand même. Bitcoin s'est cassé la figure lourdement en 2022, mais comparé aux hivers crypto précédents, la volatilité a été un peu moindre, même si elle a été importante. Hein. Elle a été un peu moindre. Elle va décroissant, cette volatilité sur Bitcoin.
Les amplitudes, oui. Les amplitudes avec le temps s'amoindrissent parce qu'effectivement, la capitalisation augmente. Donc, c'est plus difficile de faire bouger 3000 milliards alors qu'au cycle précédent, c'était beaucoup moins. Donc effectivement, ça a tendance à se réduire. Et évidemment aussi et surtout parce que les projets arrivent sur les blockchains, les utilités aussi, donc il y a moins d'intérêt spéculatif, même s'il reste aujourd'hui prédominant sur l'écosystème. Ça, c'est certain qu'avec le temps, ça se réduit. Mais Juste pour préciser, effectivement, et rajouter, mais je pense que tu souhaitais en parler, la difficulté d'être payé en bitcoin.
Vous tutoyez un député, vous?
Comment?
Vous tutoyez un député.
C'est un ami de la communauté, Guillaume. Christophe en parle.
Guillaume, vous pouvez me tutoyer aussi, si vous voulez.
Vous voyez, ça c'est bien, c'est la communauté. Et donc effectivement, cette subtilité, elle est surtout fiscale. C'est-à-dire qu'être payé en France en crypto, en bitcoin, et l'utiliser, c'est se prendre la flat tax à 30% en permanence. Donc ça veut dire que l'utiliser en moyen de paiement, c'est perdre 30% de son salaire instantanément. Donc avant d'être risqué par les cours, on est risqué par la proposition fiscale aujourd'hui en France qui ne fait en sorte que ça ne soit pas un outil de paiement. C'est bien d'avoir de la fiscalité, ça dépend des usages. Si on est sur un usage de moyen de paiement, ça ne pourra pas se faire avec une fiscalité à la flat tax de 30% à chaque paiement.
Bon, on rappelle notre invité aujourd'hui, Christophe de Beuclair, député belge, premier député au monde à avoir choisi, en tout cas des premiers connus, en tout cas avoir choisi de convertir l'ensemble de son salaire tout au long de l'année 2022 en bitcoin. L'une de vos autres marottes, non c'est péjoratif, mais l'un des autres sens que vous donnez en tout cas au bitcoin, c'est son rôle pour tenter de lutter contre notre modèle de croissance. Ça, c'est aussi un moteur pour vous, en tant qu'homme politique, tenter de lutter contre ce modèle de croissance que vous jugez malsain et contre lequel Bitcoin peut, à vos yeux, apporter une solution. Ça, il faut nous l'expliquer.
Écoutez, moi, je suis un écologiste pragmatique. Et donc, je pense que si on regarde les choses de manière pragmatique, dans un monde fini, la seule monnaie qui a véritablement du sens est une monnaie finie. Parce que si vous avez une monnaie infinie, comme est devenu l'euro et le dollar ces dernières années, eh bien, en fait, qu'est-ce que vous faites quand, qu'est-ce que la Banque centrale fait quand elle imprime de la monnaie comme elle le fait depuis 20 ans, hein? On a fait la masse monétaire, ça a fait x5, ça dépend quelle masse monétaire vous prenez, mais ça a fait x5 en 20 ans. Le bilan des banques centrales a explosé en 20 ans aussi, hein? On est passé de 400 milliards début des années 2000 à 4000 milliards juste avant la crise du Covid. Donc déjà, on avait fait x10. Et aujourd'hui, on a 8500 milliards deux ans plus tard. Donc tout ça veut dire que quand on injecte massivement des moyens dans l'économie, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, en fait, ça incite tous les acteurs économiques, tant les producteurs que les consommateurs, à produire et à consommer plus de manière intensive. Et donc, vous aboutissez dans ce modèle de la croissance, du consumérisme, du matérialisme dans lequel on est. Et c'est pas ma vision de la société. Et donc, je pense qu'on doit revenir à quelque chose de plus raisonnable. Et c'est comme toujours, quand on a un pouvoir trop fort, c'est dangereux. On a, en politique, on a un pouvoir et un contre-pouvoir. C'est important. Et je pense que dans le monde monétaire, on a un pouvoir qui est bien structuré aujourd'hui avec la finance décentralisée. Il faut qu'apparaisse un contre-pouvoir pour que le pouvoir en place se comporte de manière un peu plus raisonnable.
Mais pour financer les hôpitaux, il faut bien de la croissance?
Alors ça c'est c'est tout le débat sur la croissance et sur la décroissance que je vais pas mener ici. Moi je suis pas quelqu'un qui défend la décroissance. Par contre, je pense qu'il y a des réformes vraiment nécessaires que on ne fait pas aujourd'hui parce que on a un moyen de financer facilement les choses en imprimant de la monnaie. Et donc, je pense que on doit continuer à avoir un système financier centralisé avec un certain pouvoir d'adaptation et de pilotage de l'économie. Mais à côté de ça, on doit avoir une optionnalité, la capacité de choisir aussi autre chose pour certains autres investissements ou une certaine autre épargne qui est la finance décentralisée.
Est-ce qu'il faudrait obliger les entreprises, à vos yeux, les obliger à accepter le paiement en crypto et en bitcoin, puisque vous dites que c'est ce qui libérera les gens?
Alors, je pense qu'on doit... Enfin, ça, c'est vos mots. Hein, je ne suis pas dans les grands slogans. Moi, je suis plutôt, je vous dis, un pragmatique. Mais
vous parliez de liberté financière.
Voilà, tout à fait. Voilà. Mais je pense que ça peut apporter une certaine liberté. Je ne dis pas pour ça qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui n'est pas libre. Ce n'est pas vrai. On est dans un monde, surtout, où aujourd'hui, il y a des systèmes encore démocratiques en place. Et je pense que les conditions extérieures vont se durcir dans les décennies qui viennent et qu'on risque aussi d'aller vers des pouvoirs plus forts qui, si on leur donne des outils trop centralisés en main, peuvent être dangereux.
Mais on est encore en démocratie, vous le dites. Ah, non, oui, mais c'est intéressant, c'est important de le dire pour votre positionnement aussi, parce que c'est vrai que dans l'écosystème, puis dans la société en général, parfois on verse vite aussi dans le complotisme, etc.
Non.
C'est pas votre cas.
Ah, c'est vraiment pas mon cas. Moi, je fais de la politique, je suis convaincu du fait qu'on doit faire société ensemble et que les institutions démocratiques sont super importantes et je les défends bec et ongle.
Ok. Et donc, est-ce qu'il faudrait que les entreprises proposent de façon beaucoup plus massive, qu'elles soient plus nombreuses à proposer de paiement en bitcoin? Vous dites, la stabilité du bitcoin viendra quand son adoption sera véritablement massive. Donc, il va falloir passer par cette étape pour que le bitcoin, effectivement, devienne une monnaie stable ou en tout cas fiable.
Mais écoutez, de toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des pays où le Bitcoin est cours légal, vous avez des pays où les transactions se font en beaucoup plus grand nombre encore que chez nous, vous avez des entreprises qui sont actives dans ces pays, donc aujourd'hui, vous avez des grandes multinationales qui déjà, dans leur compte, doivent gérer de la crypto, doivent gérer du Bitcoin. Et donc, évidemment que petit à petit, ça arrive chez nous. Et donc, c'est pas une question de savoir est-ce qu'il faudrait que, ça va arriver, la question c'est est-ce qu'on l'encourage, est-ce qu'on l'encadre pour que très vite, on se mette au diapason et que nos entreprises et nos sociétés s'adaptent et soient en tête du peloton, ou bien est-ce qu'on freine des cas de fer pour être les derniers dans le monde à se mettre dans le train? C'est ça la seule question qui nous reste.
Vous n'êtes pas pour les cryptos, vous êtes pour le Bitcoin. Vous êtes un Bitcoin maximaliste?
Je suis un maximaliste de la finance juste, moi, et je pense que Bitcoin peut certainement apporter quelque chose. C'est pour ça que je l'ai pris en Bitcoin. Par contre, je pense aussi que d'autres cryptos auront leur rôle. Je pense qu'on est au tout début d'un écosystème encore, hein, si on zoom un peu, c'est tout ça à quelques années en fait, et donc on doit laisser, on doit être très prudent, prendre beaucoup d'auteur et piloter, regarder vers où les choses vont pour ne pas prédire l'avenir de manière erronée. Et donc moi je supporte tout l'écosystème crypto. Je pense que Bitcoin est quand même le roi de la crypto aujourd'hui, mais je pense qu'il faut être très attentif à d'autres protocoles, à d'autres blockchains qui pourraient apporter beaucoup.
Un député qui soutient le roi de la crypto en l'occurrence, le Bitcoin. Juste pour terminer, justement, vous seriez
belge aussi,
oui. Oui, c'est vrai, vous êtes député belge. Vous seriez député français. Vous demanderiez, vous exigeriez l'accélération du calendrier et que les nouveaux entrants sur le marché crypto en France doivent acquérir l'agrément dès le mois d'octobre, ou au contraire, vous êtes plutôt dans le camp de ceux qui estiment qu'il faut réglementer de façon plus modérée?
Mais bien sûr, il faut pas aller trop vite. Pourquoi? On va devoir en Europe apprendre quand même, quand il y a des innovations, à ne pas regarder toujours tous les risques et tout ce qu'on risque de perdre et qui se passe mal, mais regarder plutôt les opportunités et ce qui est possible de construire demain. Et donc, il faut bien sûr être raisonnable. Le règlement MiCA est en route, arrive. Basons-nous sur ce calendrier-là. Et je vous conseille, en tout cas, en France, de ne pas aller trop vite parce que vous risquez fort de voir fuir vos entreprises et vos pépites parce que vous en avez. Vers chez nous. Alors moi, je ne serais pas mécontent, mais je ne pense pas que ce soit ça l'objectif de vos autorités. En tout cas, je leur déconseille.
Principe de précaution, ce n'est pas votre truc.
Si, je pense, mais ça dépend ce qu'on entend par précaution. Moi, j'ai une notion de la précaution qui est peut-être plus large que certains.
Au point que vous avez choisi tout au long de l'année 2022 donc, de convertir toute votre rémunération de député en Bitcoin. On l'a vu plus précautionneux en l'occurrence. Mais c'est un acte politique.
Voilà, c'était pas un acte financier, c'est un acte politique. Et si vous voyez du côté politique, je pense qu'il y avait des vraies raisons valables pour le faire.
Chacun jugera. Vous pouvez retrouver le replay, bien sûr, avec tous vos arguments sur notre site BFM Bourse et notre fil BFM Crypto. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Christophe de Beukeleer. Ça va?
C'est très bien.
On est bon? Sur la prononciation, là, on discute et on rigole parce que juste avant, vous m'aviez bien précisé.
Allez, je vous dis, c'est de Beukeleer.
Faut refaire, là. Pour ça l'avoir bien dit. Merci beaucoup d'être passé nous voir.
Bonne journée.
Député, donc, au Parlement belge, Valentin de Mey nous accompagne également chaque après-midi. Pardon?
Raté.
C'est pas ça?
Non, c'est pas ça.
De mai.
Voilà, c'est ça.
Bon, c'est banalement
avec
français.
Avec plaisir, M. Sommerer.
Banalement français. Journaliste pour Cryptos qui nous accompagne régulièrement. Bon retour à tous les
heureusement
deux.
Heureusement qu'on se rendait avec nos amis belges, hein, parce qu'avec tous ces accents, on aurait pu. Merci d'être si patient, M. Le Duc.
Pardon pour cet humour qui fera pas rire tout le monde. Bon, voilà. Allez, merci messieurs de nous avoir accompagnés. C'était notre club BFM Crypto dans la bonne humeur, comme chaque jour. Dans un instant, les marchés, la séance du jour. On est à une demi-heure de la clôture à Paris et aussi sur le marché belge. D'ailleurs, le CAC 40 est en léger repli. La bourse de Bruxelles aussi recule un petit peu, on s'en reparle dans un instant. A tout de suite sur BFM Business.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.